VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 temps universel. Nous sommes mercredi 14 mars 2018 au sommaire. Fin de la grève des enseignants qui a paralysé l'enseignement pendant des semaines en Guinée. Il y aura un second tour en Sierra Leone entre l'opposant Julius Maada Bio et le candidat du pouvoir Samora Camara. Inquiétude en Ituri, dans l'est de la RDC, avec de nouvelles violences intercommunautaires qui ont fait au moins 30 morts cette semaine.
Il y a cela deux jours à déplorer encore des morts et toutes les autorités, pas toutes les autorités sont là en train de trouver une solution. Donc la situation n'a pas évolué dans le sens du bon, la situation est encore préoccupante.
Analyse dans la partie magazine. La Grande-Bretagne expulse 23 diplomates russes et suspend les contacts de haut niveau avec Moscou. Et les États-Unis, un mois après la fusillade dans un lycée de Floride, des élèves organisent des marches à travers le pays. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout de suite, le journal. En Guinée, les élèves retournent en classe. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et le gouvernement ont signé un accord qui met fin à un mois de grève dans les établissements scolaires et des manifestations. Zakaria Camara est à Conakry.
C'est au soir d'une nouvelle journée de manifestation des femmes et des élèves à Conakry que les enseignants et les représentants du gouvernement, avec à leur tête le médiateur de la République, se sont de nouveau rencontrés. Contrairement aux précédentes, la rencontre du mardi a abouti à un accord. Plusieurs points ont été acceptés par le gouvernement. Il s'agit du paiement des 30% qui reste avec effet rétroactif. Le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est rétabli dans ses droits. L'accord autorise l'annulation de sa suspension et le paiement de ses arriérés de salaire. Les deux parties s'accordent que nul ne sera sanctionné ou poursuivi pour fait de grève. Concernant les salaires de base de 8 millions demandés par les enseignants, il a été décidé de la mise en place d'un comité paritaire syndicat-gouvernement en vue de l'ouverture d'un couloir de négociation à partir de début mai. La grève est suspendue, mais plusieurs écoles sont restées fermées à cause d'une manifestation à l'appel de l'opposition guinéenne. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
En Sierra Leone, l'opposition arrive légèrement en tête du premier tour de l'élection présidentielle et un second tour aura lieu le 27 mars. Le candidat de l'opposition, Julius Maada Bio, est donné favori. Le point avec Blanche Sanou.
La Commission électorale nationale a fixé au 27 mars le second tour de l'élection présidentielle. Le candidat du principal parti de l'opposition, Julius Maada Bio, a légèrement devancé celui du parti au pouvoir, Samora Camara. Selon les résultats complets, M. Bio a obtenu 1 097 482 voix, soit 43,3%. Il devance de près de 15 000 voix le candidat du parti au pouvoir, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Samora Camara. Les observateurs avait salué le bon déroulement du premier tour et la participation massive des électeurs. Le président sortant Ernest Bai Koroman ne pouvait plus se représenter après deux mandats de 5 ans. Le bilan de son administration sortante est contrasté, même si elle est parvenue à attirer les investisseurs pour reconstruire le pays ravagé par la guerre civile. L'économie reste toujours fragile, 2 ans après l'épidémie d'Ebola et la corruption qui gangrène le pays.
Au Sénégal, le procès de 30 djihadistes présumés devant un tribunal de Dakar pour actes de terrorisme et financement du terrorisme a encore été renvoyé au 9 avril à la demande du parquet. La Cour d'appel de Paris a rejeté le recours introduit par le Sénégal contre le refus de la justice française de procéder à la saisie des biens de Karim Ouad. Karim Ouad, fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, avait été condamné le 23 mars 2015 au Sénégal à 6 ans de prison ferme, à plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite, ce qu'il a toujours nié, et à la confiscation de tous ses biens. Au Zimbabwe, les services d'urgence des principaux hôpitaux publics sont paralysés par une grève des médecins. Ils exigent une amélioration de leurs conditions de travail. Les jeunes pratiquants ont été rejoints aujourd'hui par leurs aînés. Sous la pression des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU menace d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud. dans un texte qui sera voté demain et renouvelant pour un an la mission de sa force de paix dans ce pays. Le projet de résolution souligne que le Conseil de sécurité est prêt à étudier toutes les mesures appropriées, y compris un embargo sur les armes pour priver les belligérants des moyens de continuer à combattre. À Maurice, la présidente Amina Gourib Fakim a annoncé qu'elle ne va pas démissionner. Elle conteste les faits de corruption qui lui sont reprochés dans un scandale financier. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans un communiqué, la présidence a déclaré qu'Amina Gourib Fakim rejette toute perspective de démission parce qu'elle n'a rien à se reprocher. Madame Gourib Fakim dit être prête à aller en justice pour se défendre contre ces accusations de corruption qu'elle juge calomnieuses. Il lui est reproché d'avoir utilisé une carte bancaire fournie par l'ONG Planet Earth Institute pour effectuer des dépenses personnelles de 25 000 euros. La présidente mauricienne a reconnu les faits, mais affirme avoir remboursé l'argent utilisé et l'ONG a confirmé le remboursement des sommes concernées. Le premier ministre Pravin Jugnauth avait annoncé vendredi que la présidente allait démissionner après les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance qui ont eu lieu lundi et avant la rentrée parlementaire le 27 mars. L'affaire implique le milliardaire angolais Alvaro Sobrinho, un homme d'affaires controversé qui finance l'ONG Planet Earth Institute.
Le gouvernement comorien a dénoncé une stigmatisation de ses citoyens dans le mouvement social qui secoue l'île française de Mayotte dans l'archipel des Comores. Le département français de Mayotte est secoué depuis 4 semaines par un mouvement social contre l'insécurité et l'immigration clandestine en provenance de l'État voisin pauvre des Comores à moins de 70 kilomètres.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La première ministre britannique Theresa May a annoncé ce mercredi une série de sanctions contre la Russie, dont l'expulsion de 23 diplomates russes et le gel des contacts bilatéraux. Elle estime que Moscou est coupable de l'empoisonnement d'un ex-espion russe sur le sol britannique. Le point avec Bagassi Koua.
Les 23 diplomates expulsés ont une semaine pour quitter le territoire britannique. Theresa May a aussi annoncé la suspension de tous les contacts bilatéraux de haut niveau. Elle s'exprimait devant le Parlement 10 jours après l'empoisonnement à Salisbury d'un ex-espion Sergei Skripal, âgé de 66 ans, et de sa fille Yulia, 33 ans, victime d'une attaque avec un agent innervant militaire de fabrication russe. L'ambassade de Russie à Londres a aussitôt dénoncé un acte hostile, inacceptable et injustifié. Le Kremlin clame son innocence, disant qu'il n'admet pas les accusations sans preuve et les ultimatums de Londres.
Aux États-Unis, donc ici aux États-Unis, des dizaines de milliers d'élèves ont quitté leur salle de classe pour exiger des mesures concrètes contre les armes à feu. Une initiative qui intervient un mois après la fusillade de Parkland en Floride qui a fait 14 morts. Claire Morin-Jubourg.
Ils étaient des centaines de collégiens et de lycéens à s'être ainsi rassemblés devant la Maison Blanche à Washington. Protéger notre avenir, pas les armes à feu, ou encore les prières, cela ne suffit pas, pouvait-on lire sur les pancartes brandies. À travers tout le pays, des élèves et des étudiants se sont réunis pour la National School Walkout, qui veut rendre hommage aux 17 victimes de la tuerie de Parkland en Floride il y a un mois. Alexander Bovie, un lycéen de 16 ans de Bethesda dans l'état du Maryland, est lui aussi venu. Il espère, comme ses camarades, faire avancer la législation sur les armes à feu, interdire les fusils d'assaut et empêcher les sénateurs et les représentants de pouvoir bénéficier de l'argent de la NRA, le lobby américain des armes. La NRA est une des cibles de la manifestation des étudiants. Les pensées et les prières n'arrêtent pas les balles, peut-on lire sur un panneau brandi par une adolescente.
L'Iran réagit au limogeage du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la décision de Donald Trump de se séparer de son chef de la diplomatie montre que les États-Unis sont déterminés à quitter l'accord sur le nucléaire avec Téhéran. Si les États-Unis quittent l'accord nucléaire, nous l'abandonnerons aussi, a-t-il prévenu. Le commandant des forces américaines de l'OTAN en Afghanistan a conseillé aux talibans de participer au pourparlers de paix proposé fin février par le président afghan Ashraf Ghani. C'est probablement le meilleur moment pour eux de tenter une négociation, car cela ne va pas cesser d'empirer pour eux, a indiqué le général John Nicholson. Le secrétaire américain à la défense Jim Mattis est en visite à Kaboul. L'administration de Donald Trump envisage d'imposer des droits de douane sur les importations chinoises équivalents à 60 milliards de dollars, taxe qui vise notamment les secteurs de la technologie et des télécommunications selon des médias américains. Les tarifs cibleront une centaine de produits chinois. Et puis le président serbe a affirmé que Belgrade était disposé à un compromis sur le Kosovo, son ancienne province albanaise dont elle ne reconnaît pas l'indépendance. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Mianerikiza qui nous présente la Minute Éco.
Le Rwanda et la Tanzanie ont convenu une ligne ferroviaire électrique au lieu d'un chemin de fer pour locomotive diesel en vue de relier Kigali et Isaka. Le changement de conception permettra de gagner sur le temps et les coûts de transport des passagers et marchandises. Le projet va coûter 2,5 milliards de dollars. Les réserves de change de l'Angola en 2017 ont baissé de plus de 36%, d'après la Banque nationale d'Angola, et représentent plus de 13 milliards de dollars. L'accroissement de la sortie des devises pour assurer les paiements courants du gouvernement et de la dette extérieure est à l'origine de cette situation qui frappe l'économie du pays. Pour amortir le choc, la Banque centrale a décidé de faire flotter la monnaie nationale, le kwanza. Addis Abeba et Moscou renforcent leur coopération dans les secteurs de l'énergie, le tourisme et l'éducation. Un centre de recherche sur le nucléaire sera construit en Éthiopie. Les étudiants et les diplomates éthiopiens vont bénéficier des bourses d'études pour une formation de haut niveau. Pour booster le tourisme, une ligne directe entre Moscou et Addis Abeba sera rétablie. Enfin, la Russie a promis d'annuler la dette éthiopienne de 162 millions de dollars.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdulrahman, bonsoir à tous.
Les derniers huitièmes de finale ce jeudi.
Le FC Barcelone, revenu d'Angleterre avec un précieux match nul, un but partout, accueille Chelsea à 19h45, temps universel. Chelsea qui avait terminé la première manche frustrée par l'égalisation de Lionel Messi en fin de rencontre. Et dans l'autre rencontre de la soirée, le Bayern Munich s'est qualifié pour les quarts de finale en battant les Turcs de Beşiktaş à Istanbul, 3 buts à 1, ce qui permet à l'entraîneur du Bayern, Jupp Heynckes, de remporter un 11e succès d'affilée en Ligue des Champions. C'est un record.
Manchester United chute en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Eh oui, mauvaise nouvelle, incapable de battre le FC Séville en 2 confrontations. Le club anglais de Manchester United a été éliminé hier soir. Une défaite 2 buts à 1 à domicile, c'est une grosse désillusion pour le club entraîné par José Mourinho qui rêvait d'un meilleur destin après avoir attendu 4 ans pour revenir dans la prestigieuse compétition. C'est Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé pour les Andalous, qui a douché les espoirs des Mancuniens qui avaient réduit le score par Romeo Lukaku. Dans l'autre rencontre de la soirée, le club italien de la Roma s'est qualifié en battant l'équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk 1 but à 0. Le but à l'extérieur marqué au match aller par les Romains leur a permis de se qualifier.
Sanction pour l'étoile sportive du Sahel.
Le club tunisien qui jouera ses 3 prochaines rencontres à domicile à huis clos, c'est ce qu'a décidé la Ligue tunisienne suite aux incidents survenus dimanche lors de la réception du club africain. Il s'agit des rencontres face à Kairouan, au CO Medellin et d'un 3e match, celui en Coupe de la Tunisie selon le tirage au sort, soit au début de la saison prochaine.
On termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Russell Westbrook est devenu le 4e joueur dans l'histoire de la NBA à atteindre le chiffre de 100 triple-double avec 32 points, 12 passes décisives et 12 rebonds lors de la victoire de son équipe à Atlanta, 119 à 107. San Antonio a retrouvé des couleurs face à Orlando, corrigé 108 à 72. Au sommet de la conférence Est, Toronto a connu une petite frayeur face à Brooklyn avant de signer sa 9e victoire de suite, 116 à 102. Et puis LeBron James et Cleveland qui ont retrouvé le sourire en écœurant Phoenix, 129 à 107.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe tout de suite au dossier du jour. En République démocratique du Congo, les violences interethniques en Ituri soulèvent des inquiétudes sur la tenue des élections prévues pour décembre. Le député Grégoire Lusenge de l'opposition met en garde le pouvoir de prendre ces violences pour prétexte en vue de reporter les élections. Eddie Isongo a interviewé un analyste et auteur d'un livre sur ces violences, Nikeze Kibelbel Oka.
La situation n'a presque pas évolué, sinon elle a évolué négativement parce que il y a cela deux jours à déplorer encore des morts. Toutes les autorités sont là en train de trouver une solution. Donc la situation n'a pas évolué dans le sens du bon. La situation est encore préoccupante.
Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui les violences interethniques reprennent alors que tout était réglé avec même l'intervention de la CPI?
Le problème n'avait pas été bien réglé parce que comme vous citez la CPI a fait un peu de l'équilibriste. On a pris dans chaque communauté une ou deux personnes, on les a amenés comme dans une sorte de quota, on les a amenés à la CPI sans pour autant chercher les racines du problème. Et les racines du problème sont restées les mêmes. C'est comme ça qu'il suffit, c'est comme un champ séché, il suffit seulement d'un mégot de cigarette et tout s'enflamme. Mais il y a aussi un autre problème. Du fait qu'on refuse de voir le vrai problème, tout le monde vit comme si des les gens sont venus d'ailleurs pour créer l'insécurité. Parce que la situation de tout le temps, c'est toujours « Ah, il y a des gens qui viennent nous manipuler ». Mais le vrai problème, on n'a jamais résolu le problème qui est à la base, qui sont à la base des affrontements. On fait comme une sorte de pansement. Le problème est d'abord dans la cohabitation des communautés.
Mais ces violences ont lieu alors qu'il y a une présence des autorités sur place, en plus de l'armée et de la MONUSCO.
Nous sommes dans la série de, si je peux, si des guérillas urbaines et des guérillas rurales, des guerres asymétriques. Les forces armées de la démocratie du Congo, le casque bleu, ils viennent dans une guerre conventionnelle. Les ennemis qu'ils trouvent sur le terrain, c'est des miliciens, c'est des gens qui maîtrisent le terrain, qui ont des armes blanches, qui ont aussi des armes à feu. Mais la tactique ou la stratégie utilisée par les FARDC et la MONUSCO ne répondent pas à l'insécurité, à la violence qui est dans l'est de la RDC.
Un député, monsieur Grégoire Lusenge, met en garde, tire la sonnette d'alarme pour que ces violences ne puissent pas être servir de prétexte en vue de reporter les élections.
La violence, elle n'a rien à voir avec les élections qui vont arriver parce que cette violence, même s'il y a élection demain, cette violence ne cessera pas tant qu'on ne trouvera pas les causes, tant qu'on n'aura pas à la racine des mots. Donc cette lecture, c'est une lecture légère, c'est une lecture superficielle. Depuis les années 90, nous sommes dans la violence, notamment à l'Est. Il faut trouver des solutions. C'est vrai que la faillite de l'État contribue à créer ces zones grises, mais le problème est fondamental.
C'était l'auteur et analyste Nikeze Kibelbel Oka.
Cette semaine dans Washington Forum, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les partis ont jusqu'à la fin du mois pour déposer le nom des plateformes politiques qui vont se présenter, mais déjà des candidats ont fait part de leurs ambitions présidentielles. Après plusieurs reports, le vote est prévu le 23 décembre 2018, soit deux ans après la fin théorique du deuxième mandat du président Joseph Kabila. Dans l'attente de ce scrutin, les manifestations interdites persistent en dépit de la répression. Qui sont les candidats? Qui représentera le parti au pouvoir? Le calendrier électoral peut-il être respecté? On en discute dans Washington Forum. Morgane Guiriac avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA.
En Centrafrique, la montée des accidents de circulation inquiète. Depuis 2017, plus de 4000 personnes en auraient été victimes à Bangui et à l'intérieur du pays. Cette situation dramatique fait réagir autorités centrafricaines et partenaires. Reportage Freeman Sipila.
Dans les rues de Bangui, il ne se passe plus un seul jour sans qu'un accident de circulation ne soit enregistré. Ces tragédies, pour la plupart fatales, continuent d'endeuiller des familles. En dehors de la capitale, l'axe le plus réputé pour ces accidents est la route nationale numéro 2 qui mène au Cameroun. Dans la localité de Bouali, à 98 km de Bangui, la colline de Kassango a déjà pris des milliers de vies. Le dernier drame en date s'y est produit fin février et a occasionné 12 morts. Ces accidents sont dus à majorité aux excès de vitesse, aux surcharges et au non-respect des règles de conduite, ce que déplore Robert Yamo, sous-préfet de Bouali.
Je vous donne un cas très récent de ce qui s'est passé à Bouali où il y a eu des cas de mort horribles à voir. Un véhicule grand châssis en provenance du Cameroun a eu à charger des sacs de ciment et sur le haut des gens arrivés à Kassango à la descente. Il y a eu prise d'air, il y a eu surcharge. Qu'est-ce que le chauffeur a fait ? Prise d'air, surcharge, le chauffeur tranquillement partait. A pris la tension, il a eu un choc, il est parti. Les gens étaient dans les ravins. Des têtes coupées, des ceci, des cela.
En l'absence des bus de transport en commun sur les axes hors de la capitale, les passagers sont obligés de grimper sur des gros camions de transport de marchandises. Conséquence de cette pratique, un nombre élevé de morts pendant les accidents. Le gouvernement mis en cause promet des solutions dans les jours à venir. Ange-Maxime Kazagui, son porte-parole.
Le pays, dans sa situation actuelle, en tant que pays, n'a pas réussi à mettre en place un système de transport public des personnes. Même les pays qui se portent bien, aujourd'hui, dans la plupart des pays en Afrique, le transport public des personnes par des sociétés d'État n'a fait que faillir. Je sais depuis quelques jours qu'il y a des discussions avec des partenaires privés qui, en partenariat public-privé, souhaiteraient mettre en place des sociétés de transport public.
Pour réduire la fréquence de ces drames, la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a lancé le 5 mars une vaste campagne de sensibilisation et de formation sur le code de la route à Bangui. L'opération cible les conducteurs de taxis, taximotos et bus, ainsi que les élèves. Hervé Verroussel, directeur de communication à la MINUSCA.
La seconde phase de la campagne permettra de former ou de sensibiliser plus de 1000 conducteurs de taximoto, 750 conducteurs de taxis et bus dans les 8 arrondissements et les 2 communes de Bangui. Comme je vous l'ai dit, la MINUSCA en profitera pour organiser une campagne interne. Pour ce qui est des écoliers, car ils sont très exposés aux accidents de la circulation et surtout à la sortie des écoles, il sera organisé des sensibilisations dans 25 écoles de Bangui.
En 2017, plus de 4000 accidents de circulation, dont plus de 2500 impliquant les mototaxis, ont été recensés à Bangui et dans certaines villes de la République centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Nigeria, à quelques mois des élections générales dans le pays, les jeunes veulent faire entendre leur voix. Des centaines de personnes ont manifesté à Abuja ce mercredi pour demander au président Muhammadu Buhari de signer le projet de loi qui donne l'opportunité aux jeunes de se présenter à tous les postes électifs, alors que les moins de 25 ans représentent 50% de la population. À Abuja, le reportage du correspondant de VOA Afrique, Gilbert Tomba.
Ils étaient plusieurs centaines de jeunes dans les rues de la capitale fédérale du Nigeria pour exiger du président nigérien Muhammadu Buhari la signature du projet de loi Notuyonturong. Ce projet adopté par le Sénat il y a quelques mois permet désormais aux jeunes de se présenter à la présidence de la République dès l'âge de 35 ans, ce qui n'est pas possible actuellement. Yetunde Bakari fait partie d'un réseau de jeunes au Nigeria.
Les piliers de la démocratie, c'est l'inclusion et la participation. Si plus de 50% de la population n'est pas impliquée dans le processus de prise de décision, ce n'est pas la démocratie. Donc je suis là avec les jeunes pour demander au président de signer le projet de loi Notuyonturong. Ce projet parle les jeunes et pour les jeunes.
Aujourd'hui, il faut 40 ans minimum pour être candidat à la magistrature suprême au Nigeria. Si les jeunes obtiennent la signature du président Muhammadu Buhari, cela signifie que les jeunes Nigériens pourraient désormais se présenter à la présidence de ce pays le plus peuplé d'Afrique, mais aussi être gouverneur d'un État ou encore devenir sénateur à l'âge de 30 ans. Tom Agbo est le président du groupe du Parlement des jeunes africains.
Nous n'avions pas encore bénéficié d'une grande opportunité. Nous ne sommes pas impliqués jusqu'ici parce que nous ne parlons pas encore d'une seule voix. Le problème était jusqu'ici à notre niveau. Depuis longtemps, nous soutenons nos grands-pères, oubliant un programme qui pourrait couvrir tout le monde.
Avec l'adoption de cette réforme, des personnes âgées de 25 ans pourraient légiférer dans les assemblées nationales et étatiques à travers le pays. Malgré le niveau élevé du jeu politique dans ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest, les jeunes Nigériens se disent confiants de leur inclusion dans le processus électoral. Michael Chukwu Ebuka Okoye est membre du Conseil national de la jeunesse nigérienne.
Oui, comme nous voyons les choses, la lutte contre la corruption et le combat pour le développement, ce n'est pas seulement une lutte physique, mais il faut utiliser les connaissances. Et nous, les jeunes, nous avons la mémoire fraîche et la force pour développer le Nigeria. Je suis sûr et certain que nous sommes déterminés à faire bouger ce pays.
À ce jour, en plus du Sénat nigérian, 25 États sur les 36 qui composent le Nigeria ont adopté le projet de loi comme le demandait la Constitution du pays, avant la signature du président. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Sims Lumami. À la console, Cédric Franklin. Présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Vers fin décembre de l'année dernière, l'administration Trump a présenté sa stratégie de sécurité nationale. L'une des actions prioritaires qu'elle prévoit est le progrès et la protection de la liberté religieuse et des minorités religieuses à travers le monde. Le vice-président Pence, dans ses remarques au sommet mondial pour la défense des chrétiens persécutés, a dit « Protéger et promouvoir la liberté religieuse est une priorité politique étrangère de l'administration Trump ». L'ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse internationale Samuel Brownback a également souligné que dans son discours à l'Institut de la paix des États-Unis, que la liberté religieuse est le plus important sujet de politique étrangère aujourd'hui. Et s'il y a un trait commun entre les régimes répressifs du monde, c'est l'oppression des minorités religieuses. La persécution, la répression et la discrimination sont les lots quotidiens des membres de ces minorités dans beaucoup de pays du monde. Croyants et non-croyants sont les cibles des violences. Leurs droits humains sont limités ou parfois complètement réduits. La réponse des États-Unis à de telles violations et abus de la liberté religieuse s'appuie sur la loi sur la liberté religieuse datant de 20 ans. Cette mesure a introduit la promotion et la protection de la liberté religieuse comme priorité des politiques étrangères des États-Unis. Au cours des années écoulées, le département d'État a fourni une orientation stratégique à ses ambassades et consulats sur la manière de promouvoir de manière consistante les droits des minorités religieuses, de même que leur traitement équitable au sein de la société. Reconnaissant l'importance de préserver l'héritage culturel, le département d'État a développé un partenariat avec l'Institut Smithsonian pour former les leaders des églises et groupes religieux minoritaires sur la manière de protéger les lieux anciens d'importance culturelle. Le département d'État a aussi œuvré avec l'Organisation des États américains pour amener les pays de notre hémisphère à se joindre à ses efforts visant à combattre la persécution dans d'autres régions. Toutefois, un nombre croissant d'acteurs continue l'ONU d'attaquer les minorités religieuses, sapant ainsi la diversité religieuse. En réponse, nous devons demeurer engagés dans la défense de cette liberté fondamentale. Nous pouvons obtenir des résultats durables en créant et protégeant des environnements dans lesquels tout le monde peut jouir de la liberté des religions ou de croyances.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.